Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, le retour de Tech & Co sur BFM Business, radio, télé, les replays et les podcasts. Avec deux Guillaume que nous allons retrouver d'ici 20h30. Guillaume Charvet, responsable du programme Cerveau-Machine au CEA. Avant de parler de 5G avec un autre Guillaume que je vais vous présenter dans un instant. Guillaume Charvet, donc, une première mondiale que vous avez pu réaliser. Un paraplégique parvient à remarcher grâce à la pensée. Alors, ça paraît bête comme ça, mais finalement, c'est ce qu'on fait tous, tout le temps. Si on n'a pas de problème, on va dire, pathologique, on pense et on marche. Voilà. Mm-hmm. Mais quand on est paraplégique, bien, on ne marche plus. Et donc là, vous avez, grâce à toute une technologie et une chirurgie assez invasive quand même, réussi à faire remarcher quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant.
Exactement. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu créer un pont digital, c'est-à-dire restaurer le lien qui est entre le cerveau et la moelle épinière, qui a été rompu suite à un accident. Et alors pour ça, on a développé une technologie unique, en particulier dans le cadre d'une collaboration entre des équipes françaises, en particulier celle du CEA de Grenoble, et les équipes suisses de l'EPFL et du CHU Lausanne. Et donc à partir de là, l'objectif de cette technologie unique est constitué en particulier d'un implant. C'est le dispositif que vous voyez ici, là, qui permet d'enregistrer l'activité électrique au niveau du cerveau, donc à la surface du cerveau. Alors ici, il y a 64 électrodes et on vient mesurer des signaux de très faible amplitude et ces signaux sont ensuite transférés de manière sans fil vers un ordinateur pour qu'ils soient traités.
C'est-à-dire que, en fait, le cerveau est une immense activité électrique, on est d'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne.
Exactement.
Et donc, vous captez certains signaux qui ont un rapport, justement, avec la motricité.
Alors, ce sont les signaux correspondant aux intentions de mouvement du patient. Okay. Et donc, on vient placer cet implant en regard du, on appelle ça le cortex moteur, donc la zone où on observe l'activité électrique quand le patient va imaginer, par exemple, marcher.
Et ça, on arrive à le voir avec des appareils, des scanners, des choses comme ça, où on voit, lorsqu'il y a des intentions d'action particulières, des zones du cerveau qui s'activent ?
Et oui, on peut très bien utiliser des appareils d'imagerie, des systèmes de magnétoencéphalographe qui permettent de mesurer cette activité. Ici, l'objectif, c'est d'avoir un implant qui permet de mesurer une activité beaucoup plus précise et de manière très stable. Et c'est pour ça qu'on vient placer ces implants, par exemple, de la manière suivante, grâce à une chirurgie qui permet de remplacer l'os qui a été enlevé par l'implant.
Alors, il y en a deux d'implants. Il y en a un de chaque côté.
Oui, pour pouvoir récupérer l'information correspondant au mouvement de la jambe droite et de la jambe gauche.
D'accord, ok. C'est-à-dire que les deux zones sont distinctes, finalement.
Oui, alors, dans ce cadre-là, on peut très bien imaginer aussi avoir des implants qui vont couvrir toute la zone. Pour des questions de chirurgie, nous avons choisi de mettre deux implants de cette manière.
Donc, la personne que vous avez, parce que là, évidemment, on parle de quelque chose qui est arrivé et qui fonctionne, c'est ça qui est incroyable. Cette personne ne marchait pas. Vous lui avez donc installé ces deux électrodes, en quelque sorte, enfin un peu plus gros. C'est vraiment, il y a quoi à l'intérieur de tout
Alors, dedans, il y a de l'électronique qui va amplifier les signaux. Et ensuite, après, on va transférer de manière sans fil les signaux vers un ordinateur. Et c'est là qu'on intervient des algorithmes basés sur des méthodes d'intelligence artificielle. Ça a été développé au CEA et qui permettent de convertir ces signaux électriques du cerveau en
ordre,
en prédiction de mouvement, donc en ordre, qui vont eux-mêmes être convertis en stimulation, donc en séquences de stimulation qui sont appliquées au niveau de la moelle épinière, permettant ainsi de réactiver les muscles des jambes.
Donc il y a un troisième appareil électronique, technologique, qui est dans la moelle épinière et qui va recevoir donc les données du smartphone ou d'un ordinateur, qui va donner l'ordre en fait à ce capteur qui est dans la moelle épinière d'actionner les jambes, c'est ça?
Donc ça permet d'activer effectivement les racines nerveuses qui vont réactiver les muscles des jambes. Et donc la particularité, c'est que le patient, il peut non seulement activer le mouvement de sa jambe droite et de sa jambe gauche, mais il peut également gérer l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire la hauteur de ses pas. Et ça, c'est important, parce que ça lui a permis de pouvoir, par exemple, comme vous pouvez voir sur les images, évoluer en environnement extérieur, par exemple, marcher et monter des rampes, marcher et monter des escaliers, ou voire même marcher avec des béquilles. Et ça, il n'avait jamais pu le faire auparavant.
Il a toujours besoin de béquilles aujourd'hui.
Oui, effectivement, béquille ou déambulateur, plus principalement un déambulateur, sur lequel d'ailleurs on a pu installer un système, un ordinateur, que ce soit dans un sac à dos ou directement sur le déambulateur, qu'il peut même utiliser aujourd'hui chez lui.
C'est incroyable. Alors évidemment, c'est pas parfait. Hein. Ce patient ne va pas faire le marathon, c'est sûr, mais il gagne en autonomie, c'est-à-dire qu'il maintenant il est retourné chez lui et il vit quasi normalement, c'est-à-dire qu'il se déplace chez lui, il peut monter les escaliers chez lui avec cette technologie.
Je vais moduler un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il peut utiliser le système chez lui, il l'utilise une à deux heures en fonction de ses besoins, le reste du temps il est dans son fauteuil, mais ça lui permet effectivement d'avoir une meilleure autonomie. D'accord. Il disait par exemple, il n'y a pas longtemps, il venait d'acheter une maison et grâce à ça, il a pu repeindre les murs de sa maison.
Incroyable.
Donc ça c'était incroyable et même les équipes de recherche s'y attendaient pas.
Alors on n'est qu'au début de cette histoire et on voit qu'il y a pas mal de pistes qui sont prises un peu partout. Neuralink, tiens, en plus c'est l'actualité, vous avez vu que l'entreprise d'Elon Musk qui justement compte installer des petites puces aussi dans le cerveau et avec des électrodes a eu l'agrément du FDA pour justement faire des essais sur les humains. Vous suivez un peu ce que fait Neuralink?
Bien sûr, on suit bien entendu les différentes entreprises et labos de recherche qui travaillent dans le domaine ça s'appelle des interfaces sœur-machine. Donc Neuralink propose effectivement de développer un implant, un dispositif implanté qui a une approche un petit peu différente de celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai montré un implant qui vient poser des électrodes à la surface du cerveau et voire même sur la dure mère, donc qui ne pénètre pas dans le cerveau pour des questions de sécurité. L'implant de Neuralink propose des électrodes qui vont pénétrer dans le cerveau pour aller mesurer cette fois-ci non pas une activité globale cérébrale, mais plutôt l'activité unitaire de neurones. Et c'est une approche différente.
Qui est plus précise, j'imagine.
Qui est
plus invasive aussi.
Qui est plus invasive, qui est sûrement plus précise, ça reste à démontrer, dans le cas des essais cliniques, qu'ils vont sûrement démarrer, puisqu'ils viennent d'avoir l'accord de la FDA.
Quelle est la prochaine étape de votre projet, Guillaume? Rappelons que vous êtes responsable de ce programme cerveau-machine au CEA.
Alors, la prochaine étape, il y en a deux principales. La première, c'est d'étendre les indications de cette technologie. Par exemple, pour permettre cette fois-ci à des patients tétraplégiques de contrôler leurs bras. Cette fois-ci, en venant placer le stimulateur, non pas au niveau lombaire, mais au niveau cervical, des vertèbres cervicales.
D'accord.
Pour activer le mouvement des bras.
Il faudra deux autres capteurs comme ça.
On pourra effectivement mettre des dispositifs plutôt sur la zone du cerveau
correspondant les bras.
Au mouvement des jambes et des bras, des bras et des mains. Et le deuxième volet, le deuxième travail des équipes de recherche, ça va être plutôt de travailler sur la réduction, la miniaturisation du système. En particulier, tout à l'heure, je parlais d'un ordinateur qui vient décoder les signaux venant du cerveau. Cette fois-ci, c'est de passer de cet ordinateur-là à une simple puce électronique qui va, grâce aux compétences du CEA dans le domaine de la microélectronique, permet de réduire considérablement la taille du système.
Voilà, miniaturiser tout ça, parce que évidemment ça pose des problèmes d'autonomie, d'autonomie électrique, mais d'autonomie tout court aussi. Et donc, voilà, en tout cas ça marche, c'est incroyable, imaginez les progrès que vous avez devant vous, c'est fou. Bravo encore, merci beaucoup Guillaume, responsable du programme Cerveau-Machine au CEA.